Magique la radio. 17h30, 18h. Bienvenue au Studio Magique. Studio Magique. Sébastien Lecoeur.
Avec nous pour ce premier numéro de rentrée, un artiste que nous apprécions énormément et que nous sommes ravis d'accueillir ici sur Magique la radio, Jean-Michel Jarre, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup de nous consacrer quelques minutes à l'occasion évidemment de votre venue à Limoges. Ce sera le 14 octobre prochain au Zénith avec un spectacle qu'on attend évidemment comme événement. On va en reparler dans la deuxième partie de cette émission. Avant, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de vous. Évidemment, quand on parle Jean-Michel Jarre, on parle de la musique, mais d'une musique très particulière. Comment vous êtes arrivé dans cet univers? Je crois que d'abord, on était loin de la musique électronique évidemment à vos débuts. C'était plutôt les boîtes de jazz avec votre maman à peine 10 ans.
Oui, c'est vrai que la musique électronique, moi, quand j'ai commencé, n'avait pas du tout la popularité qu'elle a aujourd'hui. Et c'était, on était un groupe de marginaux qui nous intéressions à des drôles d'instruments bizarres. C'était un peu les Shadocks. D'ailleurs, l'endroit, le groupe de recherche musicale où j'ai eu le premier contact avec les musiques électroniques, c'était le service de la recherche de l'ORTF à l'époque, l'ancêtre de France Télévisions, qui a produit notamment les Shadocks. Donc on était un peu les Shadocks de la génération. Et c'était en même temps, pour moi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que pour la première fois, on pouvait fabriquer ses propres sons, être un peu son propre luthier, et avoir, au fond, une relation très sensuelle, très tactile avec le son, avec la musique. Et ça, c'était quelque chose de très nouveau, parce qu'avant, on pouvait faire de la musique en écrivant des notes sur un papier, et là, d'un seul coup, on pouvait faire de la musique comme on fait de la cuisine. C'est-à-dire en mettant les mains dans le cambouis, en mettant les mains dans les textures, les ingrédients, pour faire vraiment quelque chose au fond, pas du tout de robotique et déshumanisé comme certains auraient pu le penser, mais au contraire, comme quelque chose de très sensuel, de très tactile. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire cette musique-là, et puis d'essayer de créer un pont entre le côté, je dirais, le côté expérimental et la mélodie et la pop musique, ce qui a donné plus tard Oxygène.
Sur l'évolution, quel souvenir vous gardez du premier album? Alors, je pensais à Deserted Palace.
Alors, bon, le premier, le plus connu évidemment du public, c'est Oxygène, mais avant ça, il y a eu effectivement d'autres albums, Deserted Palace, et un disque avant qui s'appelle La Cage, qui va d'ailleurs bientôt ressortir en édition limitée avec un remix de Vitalik également, mais dans sa version originale, que j'ai faite à l'époque où j'étais au GRM. Et c'était déjà des essais de ce qu'allait devenir après des musiques comme Oxygène, Equinox, etc. C'est-à-dire cette espèce de, comme je le disais, de pont ou d'obsession que j'avais d'essayer de mélanger justement un travail de design sonore, de sculpture sonore, avec en même temps le côté pop ou rock, ou en tout cas mélodique, et avec des harmonies qui étaient plus proches du rock que de la musique contemporaine.
Et puis sur cette première partie de carrière, il y avait également il y a une bande originale des Granges Brûlées, puis il y a aussi la partie auteur pour d'autres artistes. On pense bien sûr à Patrick Juvet, à Christophe, je crois qu'il y a eu Françoise Hardy aussi, Gérard Lenormand.
Oui, c'est ça, oui. C'est une époque où je fais beaucoup de chansons. C'est un peu des travaux pratiques pour moi en studio, puisque j'ai fait à cette époque-là un peu de tout, aussi bien des textes, des musiques, de la production. Moi, ce qui m'intéressait, c'était déjà, de toute façon, l'univers sonore de quelqu'un. Et pour moi, l'univers sonore d'un chanteur, c'est bien entendu aussi les mots. Donc, j'ai effectivement fait pas mal de chansons, ou en tant que musicien, ou en tant que producteur, ou en tant qu'auteur, comme Les Mots Bleus, Les Paradis Perdus pour Christophe, Señorita, Où sont les femmes pour Patrick Juvet, des chansons pour Françoise Hardy, pour pas mal d'autres. Mais en même temps, j'avais toujours en tête cette idée de faire ma propre musique qui soit pas nécessairement des chansons, parce que dans une chanson vous racontez une histoire, et la beauté de la musique c'est justement de laisser l'audience se fabriquer sa propre histoire et son propre film dans sa tête, et c'est toujours ça qui m'a intéressé le plus.
Et on voyage au travers de votre musique, c'est ce qu'on verra sans doute ici le 14 octobre. Il y avait aussi évidemment donc 76, on vous l'avait dit, Oxygène, donc à peine 30 ans, 12 millions je crois d'albums vendus. Vous attendiez un succès, un raz-de-marée comme celui-là?
Ah non, pas du tout, d'autant plus que c'est une musique qui à l'époque a été refusée par pas mal de maisons de disques. C'est une petite maison de disques indépendante, le disque Dreyfus, qui l'ont sorti, avec le succès que ça a rencontré. Mais au départ, c'était pas du tout gagné, c'était quelque chose qui était tellement atypique. Finalement, toute ma vie a été un peu en marge des modes, mais toujours en étant connecté totalement sur l'innovation ou sur l'actualité, et même d'anticiper un peu un certain nombre de manières de concevoir l'enregistrement, le mixage, la performance sur scène, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'entame une tournée, mais j'essaie de pousser les choses au maximum, de venir dans chaque ville avant. C'est pas raisonnable. Les gens me le disent d'ailleurs en me disant, mais t'es complètement fou, tu fais déjà une tournée, tu te balades, mais en plus tu vas dans les salles avant. Mais c'est une chose qui me tient à cœur, et c'est comme ça l'idée de repousser les limites, d'arriver par exemple dans une salle magnifique comme celle du Zénith, de respecter en même temps le public qui fait l'effort de venir me voir, qui fait l'effort de payer des billets. Et donc à ce moment-là, j'essaye de mettre les petits plats dans les grands.
Un dernier mot sur l'évolution un petit peu de ces nouvelles technologies. Quand on pensait à vous, effectivement, on pensait à tout ce qui était laser et électronique. Les choses vont très très vite aujourd'hui et elles sont peut-être plus accessibles au grand public. Comment on fait justement pour continuer d'être le pionnier, de continuer d'innover alors que ces choses paraissent peut-être plus quotidiennes aujourd'hui?
Je pense que surtout, il ne faut pas se poser la question. Moi, je pense que on ne se réveille pas un matin en disant « je vais innover ». Je pense que c'est la curiosité, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se développent technologiquement, etc. Mais il n'y a pas de progrès en matière d'émotion. C'est les outils qui changent. Et on a aujourd'hui à notre portée tellement d'outils qui sont extraordinaires que l'innovation n'est pas prête de s'arrêter, au contraire. Et c'est vrai que pour moi, ce projet-là, c'est un projet que j'aurais pas pu faire, par exemple, il y a 8 ou 10 ans, parce que technologiquement, ce n'était pas possible. Ce qui compte surtout, c'est qu'est-ce qu'on a envie de dire et d'utiliser les outils qui sont les plus adaptés à ce qu'on a envie de dire. C'est le contenu qui compte.
Studio Magique, jusqu'à 18h, Jean-Michel Jarre, Sébastien Lecoeur.
Alors Jean-Michel Jarre, on va parler bien sûr dans cette deuxième et dernière partie de l'émission du programme de ce concert du 14 octobre à Limoges. Vous l'avez dit, donc on est ici au Zénith de Limoges, vous êtes venu en repérage. Donc pour vous c'est important, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour rendre quelque chose d'encore meilleur au public, c'est une forme de respect.
Oui, c'est-à-dire que c'est d'abord effectivement une forme de respect d'essayer de pousser les limites pour qu'à Limoges, ces soirées soient absolument exceptionnelles et uniques, et que ce soit aussi différent que possible du concert que je vais donner à Lyon, ou à Berlin, ou à Londres. Et surtout quand on a la chance de pouvoir jouer dans une salle aussi belle que celle du Zénith de Limoges, qui s'apparente plus à une soucoupe volante qu'à une salle traditionnelle. Donc c'est un vrai plaisir, une vraie jubilation et une excitation pour moi. Et puis aussi le fait de pouvoir, aux répétitions que je vais faire, parce que je vais répéter... la plupart du temps, souvent les gens de mon équipe d'ailleurs me le reprochent beaucoup, je fais en disant bah finalement on fait deux concerts par jour parce que je fais deux ou trois heures de répétition l'après-midi, mais justement pour essayer d'arriver à faire en sorte que les choses soient le mieux possible et le plus adapté possible à l'endroit et que les gens vraiment aient la sensation de partager un moment unique.
On vous connaît pour des concerts gigantesques en extérieur. Comment vous appréhendez le fait d'être dans des salles plus confinées peut-être?
Moi je suis toujours angoissé par rapport à n'importe quel projet, mais pour moi on ne peut certainement pas dire qu'on est confiné dans une salle aussi extraordinaire que celle du Zénith de Limoges par exemple. Et pour moi c'était pas avec ce réflexe là, c'est avec justement le fait que aujourd'hui avec la technologie qu'on a à notre disposition, avec des salles qui sont vraiment équipées pour ça, on peut arriver à s'exprimer de manière beaucoup plus libre même qu'à l'extérieur, en étant à l'abri des intempéries, du vent, de la pluie, et le concert que je proposerais au Zénith de Limoges, je ne peux pas vraiment le faire de la même manière à l'extérieur aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui est, au contraire, je dirais même plus ambitieux que les concerts que j'ai pu faire en extérieur. Déjà, les instruments que j'ai sur scène, je ne pourrais pas vraiment les avoir trop en extérieur, mais qui ont un son absolument incroyable. Le système de son est un système de son aussi qui a été vraiment adapté pour ce genre de salle, qui ne rendrait pas la même chose. Dès que vous avez un coup de vent, vous perdez les aigus, par exemple, en extérieur. Donc il y a plein de paramètres qui font que je pense que la qualité de ce que je peux fournir dans une salle comme le Zénith de Limoges est quelque chose que je ne pourrais pas faire aussi bien à l'extérieur. Donc c'est plutôt un plus nettement qu'un moins, sinon je ne l'aurais pas fait.
Évidemment. Alors on va terminer avec le contenu du spectacle, sans trop en dire peut-être, parce que je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir la magie de ce qu'on va pouvoir découvrir sur scène. C'est votre volonté, c'est vraiment de poser les bases et au public de faire le reste.
Oui, je pense que c'est la beauté de la musique d'ailleurs. C'est de ne pas rentrer dans un processus narratif, comme un livre, un film ou une chanson, mais que chacun puisse être libre de son itinéraire, d'inviter les gens au voyage. Mais c'est eux qui font l'itinéraire et finalement chacun fait sa propre histoire. Et c'est évidemment pour moi ce que je vais faire dans ces concerts, avec à la fois le revisiter les morceaux les plus connus de mon répertoire, plus aussi des nouvelles compositions et avec des moments qui sont aussi totalement improvisés et donc qui par définition sont différents chaque soir. La scénographie aussi, avec pas mal de caméras vidéo qui sont un peu planquées partout. J'en ai même une micro-caméra sur mes lunettes qui permet de voir le point de vue subjectif de ce qui se passe sur scène. Il y a toute une architecture de lumière et de laser que j'ai conçue en fonction de chaque morceau pour vraiment justement qu'il y ait une dynamique au concert et que les choses soient très variées d'un moment à un autre. Je trouve qu'il y a beaucoup de concerts qui sont très linéaires et que même avec des artistes de renom et pour qui j'ai beaucoup de respect, souvent on va de la première à la dernière chanson et c'est un petit peu la même ambiance, c'est un peu la même chose. Alors que j'ai vraiment essayé pour ce concert que justement du début à la fin, qu'il y ait autant de moments différents et de moments avec des dynamiques différentes et qu'on soit emmené vraiment dans une vraie odyssée, quoi.
La dernière question, c'est vous qui êtes fan de technologie, DVD, Blu-ray, on peut s'étonner qu'il y ait si peu finalement de concerts de Jean-Michel Jarre encore sur ce support. C'est quoi ? C'est pour garder justement un côté unique à la prestation ou c'est simplement le souci de la perfection, par exemple le concert à la Défense que tout le monde réclame sur DVD ou sur Blu-ray ? Pourquoi pour l'instant il n'est toujours pas dans les bacs ? C'est le souci de le proposer un produit parfait ou de ne pas proposer du tout ?
Alors ça c'est vrai, et puis d'autre part il y a eu des problèmes de droit par rapport aux concerts qui sont maintenant en train de se régler, et je pense que ces concerts-là, et notamment celui de la Défense, va sortir bientôt. Mais effectivement, il faut remasteriser les choses, les techniques de vidéo et de son ont beaucoup évolué, donc évidemment ce sera totalement remasterisé, revisité pour être en accord avec les technologies HD d'aujourd'hui. Et on travaille là pour cette tournée actuelle sur un tournage 3D en relief qu'on a déjà commencé ça il y a quelques temps et on va le finir pour l'année prochaine.
Et puis c'est un spectacle que vous allez offrir à tout le public qui va venir vous voir, mais qui est aussi un hommage plus particulier à quelqu'un qui vous avez lui-même au préalable rendu un petit hommage, me semble-t-il, un auteur de renom.
Oui, Arthur Clarke, qui est le fameux auteur de 2000 Odyssées de l'espace, qui a fait 2010, qui est le nom de la tournée, et qui m'a remercié dans son livre, puisqu'il avait écouté ma musique en faisant ses livres. Et c'est vrai que c'est un hommage un peu à tous ces auteurs du siècle dernier déjà, qui nous ont présenté une vision très dynamique du futur, une vision très poétique aussi. Et l'an 2000 est derrière nous, c'est un petit peu comme si on avait un peu perdu cette vision. Et il est temps de la restaurer pour chacun de nous, pour les enfants qui arrivent, mais pour chacun de nous. Je pense qu'on sait qu'il y a des problèmes, mais ce n'est pas une raison pour oublier d'essayer de redéfinir une vision un peu surréaliste, sexy, affectueuse vis-à-vis de l'avenir, du futur et notre relation avec la planète, avec les planètes de manière générale.
Un bel avenir donc qui se dessine et qui passera donc avec vous en tout cas par cette date de concert 14 octobre ici au Zénith de Limoges. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre d'être passé nous voir. On terminera avec la petite tradition, c'est le petit autographe qu'on offrira évidemment à l'un de nos auditeurs qui va nous appeler au 05 55 14 10 10 et puis on vous attend de pied ferme ici le 14 octobre pour un grand moment de magie. À bientôt.
Merci, à bientôt à tous. Je vous attends donc le 14 octobre à Limoges pour vraiment quelque chose que je prépare pour vous tout spécialement.